Conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph, le 2 mars 1987.
Très fatigué, on arrive très bien à le supporter, mais dès qu'on est un tout petit peu fatigué, c'est pour chacun d'entre nous être plus fidèle au règlement de sa vie. Le règlement commun et le règlement individuel et personnel. Vous savez bien que les ermites l'ont toujours dit. Et les solitaires. Et saint Bruno le dit. Plus on est solitaire, plus vous êtes fidèle à un règlement de vie objectif. Autrement, on tombe dans la fantasia. Alors, c'est peut-être très intéressant d'avoir des numéros extrêmement curieux. Mais si on vous laissez chacun vivre selon votre style, en laissant pousser votre barbe, vos cheveux, on aurait des phénomènes assez vite, je crois, dans une très grande diversité. La vie commune demande
Thank you.
que normalement, quand on entre jeune, on prépare la soif de toute sa vie. C'est très curieux. La ferveur pour toute sa vie. Et quand on est entré plus âgé, c'est une reprise de tout. Et on redécouvre une possibilité d'une très grande soif d'aimer et de recherche de la vérité. Et avoir son cœur qui de plus en plus tend vers le cœur de Jésus. La sainteté, c'est d'avoir la plénitude de grâce de Jésus en nous. Et la plénitude de grâce que Dieu veut pour nous. Et de faire que notre cœur soit entièrement pris par cet amour. Donc la sainteté s'empare de tout l'exercice de notre vie religieuse, parce que c'est un exercice, un service militaire pour le Saint-Esprit. C'est un peu ça, une militia. On est vraiment pris par ça pour s'exercer pour le Saint-Esprit. Il faut que tout soit donné avec une très grande générosité et que les diverses activités qu'on fait durant la journée, toutes, soient sous l'emprise de l'amour. C'est pour ça que pendant le temps du carême, on doit intensifier sa soif de vérité. C'est votre devoir d'état d'étudier ici. Donc votre devoir d'état, c'est non seulement d'écouter les cours avec beaucoup d'attention. Dans le carré, il faut doubler d'attention. Je ne dis pas qu'il faut doubler, il faut que les cours soient doublés d'intérêt, non. Mais il faut doubler d'attention. J'essaierai, moi, de doubler l'attention. Si le Seigneur me le permet. Il faut doubler l'attention. Et en dehors des cours, dans la mesure où il vous reste un peu de temps, faites que pendant le carême, il y ait un désir beaucoup plus grand d'une recherche de la vérité. Et je vous ai déjà dit, je le répète, parce que je crois que c'est bon pour tous. Peut-être pas la première année. Ça dépend. D'avoir un grand sujet où on essaie de mettre tout l'effort de l'année là-dessus. Un grand chantier. C'est ce que j'appelle un chantier. Mais quelque chose de profond, pas quelque chose de secondaire. Ne cherchez pas à être original. Mais vous cherchez à creuser. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que c'est que la charité, les rapports de la charité de la foi? Un grand sujet, autant que possible, philosophique et théologique. Et c'est bon, si vous ne l'avez pas, prenez le début du carême en disant, voilà, c'est ça que je vais faire. Parce que pour être attentif, il faut être alerté par un sujet. Si on n'est pas alerté par un sujet, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et de toute façon générale, c'est comme ça quand on lit un livre. Si on le lit parce qu'on doit le lire, on n'y comprend pas grand-chose. Si on le lit parce qu'on veut chercher dans ce livre telle ou telle solution de tel ou tel problème, on le lit avec une très grande attention. Si on le lit pour le critiquer, parce qu'on sait qu'il a une thèse qui n'est pas du tout exacte, alors on le lit avec beaucoup d'attention et on s'aperçoit de toutes les petites bêtises qui ont été dites. Ça, c'est très bien, c'est pas votre rôle direct. Mais c'est pour vous montrer qu'on a besoin de réactuer notre soif de vérité. Ça fait partie de votre devoir d'état. Alors vous n'êtes pas des étudiants. Non, vous êtes des religieux ou futurs prêtres pour les séminaristes ou contemplatives, religieuses. sa manière et chacun selon sa capacité. Et c'est utile, vous voyez, pendant l'année, de renouveler cette recherche. Et si vous ne voyez plus très bien le sens de ces études philosophiques, parce que ça peut arriver, vous le redemandez. Moi, je ne peux pas vous le répéter tout le temps, mais vous le redemandez à celui qui joue auprès de vous un rôle de parrain. Et si vous êtes parrain et que vous perdez le sens de la philosophie, vous demandez à quelqu'un qui est au-dessus de vous. Parce que c'est bon de réactuer tout le temps ça. Il faut qu'il y ait une ferveur dans la recherche de la vérité. Et je dis bien une ferveur. Chacun à son niveau. Mais pour l'Église, il faut qu'il y ait cette ferveur. On n'a pas le droit, vous voyez, de perdre son temps. Alors si on est fatigué, si on ne peut pas, on le dit très bien, il y a des travaux matériels qu'on peut donner à tout le monde. Et puis il y a toujours la cuisine, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut que ça se fasse, même pendant le carême. C'est pendant le carême, on pourrait dire après tout, pas de cuisine. On pourrait dire ça, c'est pas si mal, pendant le carême, pas de cuisine, simplement une soupe. Il n'y aura rien de plus. Vous seriez propre si on faisait ça. Mais il y aurait peut-être qu'il serait très très content en disant, mais c'est merveilleux, moi. Au moins on comprend, il faut liquider le plus de choses possible. On est plein de miséricorde et le bon Dieu est plein de miséricorde pour vous. Alors, il ne fera pas tout à fait ça. Le cuisinier fera encore un petit peu attention à la cuisine qu'il doit faire. Un par amour pour vous. Mais ce qu'on recherche, c'est cette ferveur dans les études. Ferveur dans les études. Ferveur dans l'horizon. Le temps de carême est un temps de prière que tous on essaie d'augmenter le temps de l'oraison. Ça me semble très utile, ça. Tous ceux qui peuvent se lever la nuit, qu'ils le fassent, qu'ils parlent la permission, mais qu'ils le fassent, parce que c'est excellent. S'habituer à donner une demi-heure de la nuit au Seigneur, quand on peut le faire. Il faut que ça se fasse dans l'obéissance, parce qu'il ne faudrait pas que, à la fin de la semaine, à la fin du carême, vous voyez, il n'y ait plus que l'infirmier debout, et que les autres, ce ne soit plus rien du tout. Mais c'est bon. Ferveur dans l'horizon, et si on peut intensifier l'horizon. Je crois que c'est nécessaire pour l'Église et pour l'humanité d'aujourd'hui. C'est une manière de nous préparer à l'année mariale, vous voyez. On doit s'y préparer. Et le carême est fait pour nous y préparer. Et l'année mariale ne peut se préparer que par une ferveur plus grande de la prière et de l'oraison. Puisque c'est avant tout cela. Et pour nous, vous savez bien, l'oraison passe avant tout. Et ça, il faut se le rappeler. Et il faut qu'on en ait l'esprit. Ça passe avant la prière liturgique. Entendez ce que Marthe, ce que la petite Marthe disait sur l'oraison. Pour elle, c'était la vie intérieure, l'oraison. Et il n'y avait pas de vie intérieure, il n'y a pas d'oraison. Il peut y avoir une vie liturgique sans vie intérieure. C'est possible. Et Marthe était farouche là-dessus. Et je crois qu'elle avait raison pour le renouveau de l'Église. Le renouveau de l'Église se fait par l'oraison. En premier lieu, vous voyez, ça n'exclut pas la liturgie, pas du tout. Et ça donne à notre vie un accent, une pénétration. Alors, ceux qui ont des grâces d'oraison, comme on dit, c'est-à-dire qui ont une certaine facilité, tant mieux. Et c'est le signe que Dieu veut qu'il donne du temps. Ceux qui peinent, c'est aride, c'est dur, c'est pénible, tant mieux. Parce que le Saint-Esprit fait ça pour exercer votre générosité. Et pendant le carême, il faut exercer votre générosité. Il vous est déjà dit, je le répète, parce que c'est des choses qu'on doit dire indéfiniment, ça. Faites des actes d'adoration. Il ne faut pas chercher le silence. Le silence est un fruit. Ce qu'on cherche, c'est aimer. Alors on fait des actes d'adoration, des actes de désir, des actes de foi, des actes de soif de contempler. On les répète. Et on peut les répéter 50 fois. Je crois que le bon Dieu aime mieux ça que de prendre un livre. Parce que, vous voyez, vous réfléchissez tout le long de la journée par les cours de philosophie. Et les carmes de Salamanque, n'hésitez pas de dire que les études spéculatives étaient toutes proches de l'horizon. Je dirais que c'est notre méditation. C'est notre méditation. Assister à un cours de théologie naturelle. Assister à un cours de théologie, doctrina sacra, c'est une méditation. Une méditation qui ne peut pas être demandée à tout le monde, mais c'est une méditation. Comme lire la parole de Dieu, c'est une méditation. Comprendre le combat de David et de Goliath, c'est une méditation auquel il faut revenir souvent. Le temps d'oraison doit être un temps de prière. C'est pas tout à fait la même chose. La méditation, c'est quand même toujours un peu un monologue. C'est notre intelligence qui domine, notre intelligence poétique, notre intelligence affective, mais c'est notre intelligence. Tandis que la prière, c'est notre cœur. C'est notre cœur dans ce qu'il a de plus profond. La prière, le temps d'oraison, c'est la prière, c'est notre cœur qui est tout entier donné au cœur du Christ. Alors qui adore, qui loue, qui appelle, qui désire, qui gémit. On peut prier en criant le cri de l'enfant dans le désert. C'est une prière. Il faut que ce temps d'oraison soit autant que possible une prière qui, au point de départ, on s'exerce à poser des actes d'adoration et qui, petit à petit, prend possession du plus intime de nous-mêmes pour entrer dans ce que Sainte Thérèse appelle l'oraison de quiétude, c'est-à-dire cette intimité profonde avec Jésus, avec Marie, avec l'Esprit Saint, avec le Père, pour demeurer in sino patris, dans le sein du Père avec le Verbe de Dieu, sous le souffle de l'Esprit Saint, à l'ombre de l'Esprit Saint, comme aigle, comme colombe, comme celui qui se donne à nous. Faut que l'oraison soit une présence à Jésus, présent. Et cette recherche de cette présence dans un acte d'amour, dans un don de nous-mêmes. L'oraison doit réaliser ce don de nous-mêmes. Et c'est dans la mesure où elle réalise ce don de nous-mêmes que nous entrons dans le silence. Même si nous avons de la peine à demeurer dans ce silence, il y a quelques moments de silence, c'est merveilleux. Et Jésus désire nous conduire dans ce silence intérieur que l'Eucharistie nous donne. Et là, l'Eucharistie peut nous aider beaucoup. C'est pour ça que quand on peut faire oraison auprès de Jésus eucharistique, ça nous aide beaucoup. Quand on ne peut pas, on le fait chez soi, c'est sûr. Mais si on peut le faire, il faut profiter de cette grâce. Il y a un rayonnement mystérieux de Jésus dans l'Eucharistie. Une attraction mystérieuse que Jésus réalise et que Jésus veut réaliser au plus intime de notre cœur. C'est-à-dire que nous soyons sous son attraction d'amour. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Eh bien, il faut demander à Jésus de réaliser cela. Il faut prendre souvent cette parole dans son cœur. C'est une parole d'une efficacité prodigieuse. Parce que c'est une parole divine que Jésus veut réaliser. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Il est pour nous sur le bois dans l'Eucharistie. Il ne faut pas l'oublier. Puisque c'est Jésus qui s'offre à la croix qui nous est donnée. Et donc c'est bien lui qui nous attire. Et c'est bien lui qui désire réaliser cette attraction sur nous. Et voyez bien, l'attraction, c'est le bien qui attire. C'est le bien qui exerce cette attraction. C'est Jésus notre bien, c'est Jésus notre ami, c'est Jésus notre époux, c'est Jésus notre pain qui veut nous attirer, qui nous prend. Et il faut que notre raison passée auprès de lui prenne cette très grande intimité. Demandons à Saint Jean, vous voyez, il faut demander beaucoup à Saint Jean de nous donner cette familiarité, cette intimité qu'il avait avec le cœur de Jésus. Je crois que Saint Jean désire nous la faire partager. Si nous lui demandons, il faut avoir ses audaces. Il est notre Père. Alors s'il est notre Père, il veut nous communiquer les trésors de son cœur. Il est vraiment notre Père. Il veut nous communiquer ce qu'il a été pour Jésus, pour que nous soyons nous aussi tous des disciples bien-aimés, et que nous puissions vivre dans cette intimité. Vous voyez, le temps du carême doit être ce temps où on rentre dans une ferveur plus grande pour l'oraison. Et encore une fois, cette ferveur de l'oraison, c'est pas ce que nous ressentons, mais c'est ce que nous voulons. C'est pas la même chose du tout. La ferveur, elle est dans votre volonté. Et vous pouvez tous être fervent. C'est faux de dire, ah non, c'est aride, je ne peux pas être fervent. Vous l'êtes d'une autre manière. On peut tous être fervent. C'est laissé à notre pouvoir, ça. Alors, on doit être fervent dans l'oraison. Et on doit faire que ce temps d'oraison, eh bien oui, se passe en utilisant, en exerçant tout le capital de grâce qui nous est donné. Et on demande à Marie d'être là pour nous maintenir dans cette ferveur. Alors c'est une ferveur qui peut très bien ne pas être sentie. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais vraiment aucune. Et parce que quand vous dites « j'ai fait une bonne oraison », c'est-à-dire « j'étais heureux dans l'oraison ». Oui, j'étais très heureux, c'était très beau. Ça aurait pu durer très très longtemps. Et quand vous dites « oui, ça a été rude ». Mais j'ai tenu bon. J'ai essayé de tenir bon. C'est-à-dire, j'ai multiplié ces actes d'adoration, d'appel, et ma ferveur est restée là, dans ces actes. J'ai voulu tenir bon. Et je suis persuadé que Jésus voit là une attitude de très grande fidélité. Et c'est peut-être ce qu'il aime le plus. C'est très mystérieux, vous savez, le mystère de l'oraison. C'est très mystérieux. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, s'éloigner. Le ciel de la terre. Et donc il ne faut pas avoir son oraison. Il faut avoir l'oraison du Saint-Esprit en nous. Et l'oraison de Marie en nous. Et c'est ça qu'il faut demander. Que l'oraison de Marie se prolonge en nous. Que la prière intérieure de Jésus se prolonge en nous. Alors à ce moment-là, c'est plus notre oraison, c'est l'oraison de l'Esprit Saint en nous, du cœur de Marie en nous, du cœur de Jésus. Et ça fait quelque chose d'infiniment plus grand, puisqu'on est là mobilisé pour lui. Vous avez parfaitement le droit, quand vous êtes là le matin à l'oraison, de dire, Seigneur, c'est vous qui me demandez d'être là, pour vous. Alors arrangez-vous. Pour que ce soit bien, que ce soit selon votre bon plaisir. Moi, je vous donne. Et je fais ce que je peux. Et je maintiendrai ces actes d'adoration le plus que je peux. Pour bien vous montrer que je suis là pour vous. Et que je suis là uniquement pour vous. Mais il faut que ça devienne une nécessité vitale. Leur raison, elle surgit aussi. Il faut que ce soit renouvelé pendant le temps de carême. Que le Père chante n'est pas. Et que le Père chante s'aperçoive que pendant le carême, ça va beaucoup mieux. Parce que tout le monde a une nouvelle ferveur et une nouvelle. Un nouveau don. Et c'est vrai, c'est le don de soi qui doit faire notre liturgie. C'est le don de nous-mêmes. Selon le rythme voulu par l'Esprit Saint. Vous voyez, se convertir, c'est cela, c'est réactuer tout ce que nous devons faire tout le long de la journée. Réactuer tout ce qui fait notre sainteté. Notre sainteté implique tous ses ingrédients. Travail intellectuel, oraison, méditation. Alors la méditation pendant les cours. Ah oui, méditer pendant les cours. C'est une façon très très bien de faire que les cours soient. Vous méditez ce que c'est que la personne. Oui, en demandant à Jésus de vous faire comprendre ce que c'est. Et en demandant à la Vierge Marie de comprendre ce que c'est. Et vous voyez toutes les erreurs qu'il peut y avoir et tout ça dans la lumière même de Jésus. Et c'est bon, et c'est grand. Alors parfumez-vous la tête. Second commandement. Il y a les deux commandements. Parfumez-vous la tête. C'est très étonnant ça. Que l'Église maintienne ça. Elle maintient, tu es poussière et en poussière, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Elle maintient ça. Ça, c'est l'exigence de la conversion. Et puis en même temps, parfumez-vous la tête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de prendre ça matériellement. Quel est le sens littéral de parfumez-vous la tête, hein, les bons exégètes? Quel est le sens littéral? C'est un commandement, c'est, on doit le faire. C'est l'Esprit Saint qui est le parfum de notre âme pour Dieu. C'est l'Esprit Saint, il est l'huile, il est le parfum. C'est le parfum de l'épouse pour l'époux. Parfumez-vous la tête. Demandez à l'Esprit Saint de venir en surabondance dans votre cœur. C'est cette surabondance de l'amour que l'Esprit Saint veut nous donner. Il faut se parfumer la tête. C'est nécessaire que l'Esprit Saint puisse vraiment transformer toute notre activité, notre soif de vérité, notre oraison et notre charité fraternelle. Parce que c'est là où le parfum remplit toute la salle. Il faut que le parfum s'étende dans la charité fraternelle. Et ça, c'est important d'y réfléchir. Nous avons tous certains frères, certains pères que nous aimons plus et d'autres que nous aimons moins. C'est forcé. Nous ne sommes pas encore arrivés à un degré de sainteté suffisante pour dire que pour nous, on aime chacun de ses frères comme Jésus les aime. Donc, ce n'est pas une sainte indifférence en disant « ça m'est égal que ce soit toi ou un autre ». Ce n'est pas ça du tout, parce qu'on les aime tous avec la très grande intensité de la charité du cœur du Christ et la très grande intensité de la charité du cœur de Marie. Jamais on n'arrivera à s'aimer autant. Je crois que pendant le temps de carême. Il faut que nous comprenions que notre charité fraternelle soit très intense et très joyeuse. Je crois que plus on se donne, plus on est joyeux. Je crois. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc si on se donne largement, si on ne garde rien pour soi, et qu'on est entièrement donné à ses frères, on est joyeux. Pas possible autrement. On est joyeux parce que justement, on est heureux de ne rien avoir gardé et d'avoir tout donné. C'est bien l'évangile d'aujourd'hui. Hein. Jeune homme riche, il s'en est attriste parce qu'il n'a pas osé tout donner. Tout donner à Dieu, tout donner à ses frères, dans la charité fraternelle. Quand il y a des temps de récréation, on verra comment moduler les récréations dans le carême. Et c'est vrai, quand il y a des temps de récréation, il faut se donner très à fond et dans la joie. Des petits services, les épluchards. C'est vrai. Et c'est plus charge que pendant le temps de carême. Les têtes inconnues soient présentes. Et les têtes connues continuent d'y aller. C'est vrai, parce que c'est comme ça. J'ai bien eu ce premier à me frapper la coupe. C'est-à-dire, je devrais aller pendant le temps de carême. Éplucher les légumes, je le ferai bien. Et là, ce temps est tellement limité que je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. Quelquefois, j'en serais très heureux. Parce que c'est vrai, ce serait reposant. On reviendrait novice. Et c'est bon de faire des petits services. Des petits services très simples. Très aimant. Et puis dans la charité fraternelle, par rapport à ceux qu'on aime le plus, demander au Seigneur de purifier cette amitié, de la faire toute divine, toute divine. Il y a toujours un peu des scories, vous savez. On est pauvres êtres, hein. Conséquence du péché originel. Et c'est particulièrement visible dans l'amour d'amitié. Dans la charité. Il y a des poids lourds que nous portons. Et il faut que tout ça soit brûlé. Et qu'il n'y ait plus rien. Ils soient entièrement brûlés. Et puis ceux auxquels on a un peu plus de peine, il ne faut pas le faire voir par charité. Là, pendant la charité, tiens, c'est curieux, celui-là, il vient toujours auprès de moi. Je dois sans doute être sa croix, c'est pour ça qu'il vient toujours auprès de moi. Il doit faire des efforts héroïques pour venir. Enfin, moi, je viens tout le temps, c'est curieux, avant le carême. Non, mais maintenant que les carêmes aient commencé, ça y est, tout le temps là. Il faut que ça se fasse toujours avec discrétion, n'est-ce pas? Parce que si ça se fait pas avec discrétion, ça va plus du tout. Mais ça devient pesant. Parce que c'est quelquefois réciproque, vous comprenez? Alors, ne faites pas le carême de l'autre. C'est vrai, faut pas faire le carême de l'autre en disant j'ai beaucoup de peine à l'aimer, je ne sais pas ce qu'il pense de moi, mais tant pis, j'irai le voir souvent, souvent, souvent. Non, il faut être discret dans la charité fraternelle. Et souvent, c'est prier pour ceux auxquels on a plus de peine d'aimer. C'est prier pour eux. Parce que là, on ne les dérange pas. Pas faire un héroïste stoïcien. Je crois pas. Il faut accepter nos limites. Il faut accepter nos limites qu'avec certains, c'est plus difficile. Alors, on refuse jamais. Il ne faut pas refuser. Mais il ne faut pas des efforts trop grands et maladroits. Vous savez, les caresses de l'âne. Hein, ça existe, ça, quelquefois. Les caresses de l'âne, parce que c'est vrai, on est toujours, quand à l'égard de quelqu'un qui nous intimide, à quelqu'un où il y a beaucoup moins de spontanéité, ce Dieu, disons oui, c'est vrai. Ça n'a pas. Et on demande à la Vierge Marie de faire des visites à notre place. Elle les fait. Est-ce qu'elle est bon? Elle les fait très bien et très généreusement. Et alors là, on est sûr que c'est très bien. Parfumez-vous la tête. C'est dans la charité fraternelle que ça doit se manifester. C'est dans la charité fraternelle en premier lieu. Il faut qu'il y ait un très grand effort de joie. Mais les gens de l'extérieur trouvent que vous êtes joyeux. Et de l'intérieur, quelquefois, il y en a qui trouvent qu'il n'y a pas assez de joie. Remarquez, quelquefois, ceux qui trouvent qu'il n'y a pas assez de joie, ça prouve qu'eux-mêmes ne sont peut-être pas très joyeux. Ça arrive. C'est. Parce qu'il y a des gens qui créent la joie, parce qu'ils sont joyeux. Alors tout est joyeux. Il y a des gens qui sont croque-morts. Dans la charité fraternelle, c'est. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Même si ça n'existe pas au plan liturgique, il faut que ça existe intérieurement. Il faut que pendant le temps du carême, on se pardonne et qu'on prenne l'habitude de se pardonner. Ne jamais s'endormir sans avoir demandé pardon à tous. Mais ne faites pas la litanie. Hein. Parce que si on a une dent qui pousse contre quelqu'un, on s'en aperçoit tout le temps. Et on s'aperçoit très vite, on le sait très bien. Alors on ne veut pas. Alors qu'on mette, avant de s'endormir, un petit billet. Puisque c'est un précompli. Un petit billet, je te pardonne. reçois ce pardon. Je suis un pauvre type. C'est plus facile par écrit. C'est bien de le faire. Oui, parce que quelquefois par oral, l'autre ne sait pas comment recevoir ce pardon. J'ai raconté cette histoire, ça m'a beaucoup frappé. Parce que on en a à la fin de sa vie des histoires sur le pardon. Je me souviens, et je me souviendrai toute ma vie, la manière dont le père provincial avait fait des observations, ou plus que des observations, avait accusé profondément quelqu'un. Mais d'une façon très forte, d'une façon très humiliante, devant tout le monde. Et le pauvre père, parce qu'il était prêtre, le pauvre père qui avait reçu cette correction fraternelle en public, rude, je crois, a prié toute une partie de la nuit pour l'accepter, pour ne pas avoir d'amertume, pour ne pas avoir un peu de d'opposition. C'est lui qui me l'a dit. Puis, après, il a dormi quand même une partie de la nuit, mais un petit moment. Puis le matin, alors il rencontre le père provincial, puis se jette à son cou et dit: merci père de tout ce que vous m'avez dit hier. Alors, comme je crois que cette correction fraternelle n'était pas de pure miséricorde et de pur amour, qui s'y mêlait d'autres éléments, il a très mal reçu pardon de l'autre et le remerciement et l'action de grâce. Il a recommencé de l'attraper. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas projeter sur celui à qui on pardonne le pardon qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut souvent, quand on pardonne, que ce soit très discret. Et c'est pour ça que je dis, par écrit, c'est souvent très discret. Parce que c'est pas la peine de recommencer, de mettre l'autre en tentation. Soyons miséricordieux pour lui. Quelqu'un qui nous a blessés, voyez. Quelqu'un qui vraiment nous a blessés, nous a fait du mal, a dit des choses injustes. Ça arrive, hein, ça arrive. C'est bien la raison extrêmement profonde que dit saint Thomas. Pour qu'il y ait des martyrs, il faut qu'il y ait des bourreaux. C'est l'action et la passion. Et les bourreaux sont quelquefois en service commandé. Ils ne savent même pas qu'ils sont bourreaux. Ils ont un épiderme différent du voisin. Alors ils ne savent même pas qu'ils sont bourreaux. Ils ont fait ça tout bonnement. Oui, il faut faire ça. C'est évident. Le règlement est comme ça. Le règlement est comme ça. La loi est comme ça. La loi est comme ça. Je dois lapider. Je dois lapider. Je dois couper la main. Je coupe la main. En service commandé, vous voyez. Et on fait ça proprement. Mais fortement aussi. Alors, c'est évident que quand un bourreau quelquefois un peu passionné, demander pardon, ça va le remettre en tentation. Et donc, au mieux, le petit mot, tout simple, je te pardonne, c'est tout. Il recevra le mot. Comme l'autre n'est pas là, il sera sans doute touché. Vous savez, je crois que c'est la plus grande miséricorde qu'on fait à quelqu'un que de lui pardonner. Et on lui apporte énormément. On lui apporte beaucoup. Entre frères, entre sœurs, on apporte beaucoup à celui à qui on pardonne. Parce que c'est un acte éminent de charité. et de miséricorde. Et c'est pour lui. On lui donne. Parfumez-vous la tête, hein. Tous les jours pendant le carême, rappelez-vous ça, au début. Convertissez-vous. Commencez votre oraison comme ça. Convertissez-vous. Parfumez-vous la tête. Puisque c'est l'Église qui nous le demande. Alors il faut le reprendre tous les jours. Pas seulement le vendredi, avec le psaume miserere. Mais il faut le reprendre tous les jours. Convertissez-vous. Parfumez-vous la tête. Et plusieurs fois pendant la journée. Faites cet effort avec la Vierge Marie. Et si vous faites cet effort avec la Vierge Marie, le carême sera ce qu'il doit être, c'est-à-dire un temps de grâce, un temps de conversion, un temps de joie. Et Marie sera là, et Marie vous apprendra